Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Ce soir, on vous diffuse une captation d'une discussion qui a eu lieu au mois d'octobre dernier à Liège, organisée par Students for Climate et qui recevait l'auteur Daniel Tanoureau, qui est un militant écosocialiste belge, qui est aussi un militant marxiste, pour la présentation de son livre « Trop tard pour être pessimiste ». Donc cette rencontre, elle a été captée par nos camarades de l'actualité des luttes, que vous pouvez retrouver tous les lundis au vendredi de midi et demi à 13h30, qui nous ont gentiment prêté leur enregistrement pour prolonger nos émissions qu'on avait commencées sur la critique de la collapsologie. Donc je vais vous laisser sans plus attendre avec Daniel Tanoureau.
Aujourd'hui dans cette émission, on va parler de plusieurs thèmes. Les conséquences du changement climatique, le Covid-19, l'anthropocène, la collapsologie et l'écosocialisme. Et tout ça, c'est Daniel Tanoureau qui va nous en parler. En effet, il était invité le 28 octobre dernier par un collectif belge pour la présentation de son livre. Et on vous invite tout de suite à écouter cet échange qui avait lieu en Belgique.
Nous sommes les Students for Climate, les étudiants pour le climat qui ont fait les marches en 2018, 2019 et puis bien d'autres actions et conférences depuis. Et ce soir, nous recevons en partenariat, même s'il est virtuel, avec la librairie Livre au Trésor, Daniel Tanoureau, penseur écosocialiste, ingénieur agronome, fondateur de l'organisation Climat et Justice Sociale, auteur en 2012 de L'impossible capitalisme vert et qui vient nous parler aujourd'hui de son dernier ouvrage, Trop tard pour être pessimiste. Daniel Tanoureau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous parlez dans votre livre du coronavirus comme d'un virus très moderne, la première crise de l'anthropocène. Je vais plutôt te tutoyer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par justement cette modernité de ce virus ?
La modernité de ce virus, elle résulte du fait que cette pandémie est le résultat de destruction des écosystèmes ou d'incursion du système productiviste extractiviste dans les écosystèmes, des incursions qui réduisent l'espace, la distance entre des espèces animales et l'espèce Homo sapiens, et qui, en réduisant cette distance, favorisent le saut d'espèces de virus caractéristiques de ces espèces animales vers notre espèce, éventuellement par l'intermédiaire d'un hôte comme le pangolin, hein, qui a servi apparemment de chaînon entre les chauves-souris et nous. Et donc ces incursions destructrices, extractivistes dans les écosystèmes, elles sont multiples. C'est la déforestation, c'est l'orpaillage, donc la récolte de l'or en Amazonie ou ailleurs, par les chercheurs d'or avec leurs tamis hein, dans les rivières. C'est le commerce des espèces sauvages, le commerce de la viande de brousse, comme on dit, hein, la bushmeat, très prisée dans certains milieux riches, notamment dans le monde asiatique, mais pas uniquement. Et derrière ça, il y a toutes les pressions des industries minières, des industries d'exploitation du bois et de l'agro-business en général. Donc, en ce sens, cette pandémie est très moderne. Elle s'inscrit dans une tendance visible depuis plusieurs décennies maintenant à la multiplication de ces zoonoses, donc de ces épidémies provoquées par ces sauts d'espèces. On pourrait dire que ça a commencé avec le sida, hein, qui est sans doute la première épidémie de ce genre. Et depuis lors, on a connu le Zika, le chikungunya, le H5N1, la grippe aviaire, le SARS-CoV-1, maintenant le SARS-CoV-2. Donc il y a une multiplication de ce genre de phénomènes. Et l'OMS nous annonce que ça va continuer, même si on vient à bout de l'épidémie de SARS-CoV-2 et de la COVID-19, il y aura d'autres pandémies de ce genre. Donc on est vraiment dans un problème systémique. Et ça veut dire que l'humanité n'est plus simplement confrontée à des crises classiques du mode de production capitaliste, des crises de surproduction entraînant des fermetures d'entreprises, le chômage massif, la perte des salaires, etc. Ces phénomènes-là sont toujours présents, ils sont très présents aujourd'hui. Ce phénomène de crise économique classique du capitalisme avait commencé avant la pandémie, mais la pandémie est venue s'ajouter à ça, se combiner. C'est pour ça que je dis que cette pandémie, c'est la première crise globale de l'Anthropocène. C'est la première fois qu'à l'échelle globale, l'humanité est confrontée à un phénomène de ce genre d'interconnexion, de mélange entre le socio-économique et les aspects de crise écologique qu'elle a elle-même provoqué. Avant ça, on avait connu des phénomènes de ce genre à l'échelle locale, hein, par exemple le Dust Bowl aux États-Unis dans les années 30, hein, cette catastrophe terrible due à l'érosion éolienne des sols dans le Midwest américain. Mais à l'échelle globale, c'est la première fois et je crois que c'est un signe d'une ère nouvelle.
Et tu en parles vraiment comme d'un avertissement que nous devons prendre en compte pour le futur.
Oui, absolument, parce que les crises auxquelles l'humanité va devoir faire face seront des crises de ce genre, combinant les aspects, je dirais, endogènes de la crise économique et sociale capitaliste avec des aspects exogènes, en ce sens qu'ils ne découlent pas du fonctionnement des lois de l'économie capitaliste, mais qui sont quand même dus à la logique capitaliste productiviste et extractiviste. Et un autre aspect de l'avertissement qu'il faut prendre très au sérieux, selon moi, c'est ce qu'on constate de la manière dont la classe dirigeante dirige quand elle dirige. À travers cette pandémie, on voit que la classe dirigeante, d'abord, est incapable, pour des raisons de fond, de faire face au phénomène, parce qu'il faut qu'elle donne la priorité à la croissance, à la production de plus-value. Et donc, voilà, les autres considérations passent après, c'est très clair. Mais aussi, elle utilise les crises de ce genre pour approfondir les inégalités et pour introduire des mécanismes de pouvoir autoritaire. Et là, maintenant, on est en plein dedans, hein, avec le couvre-feu et ce genre de choses.
Tu parles beaucoup dans ton livre des programmes capitalistes verts, écologiques et climatiques actuellement mis en place par les institutions et gouvernements. Alors, sans trop aller dans le détail, mais est-ce que tu pourrais nous présenter voilà, ces rapports, que ce soit la CNUC ou l'IPES ou ce genre de choses?
En fait, je pense qu'au niveau des gouvernements et des États, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme. Ils ne savent pas comment ils vont faire, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, alors qu'ils sont parfaitement informés de la gravité extrême de la situation climatique et de la situation de destruction de la biodiversité, mais ils n'ont pas de réponse. Alors, il y a des chercheurs dans les plateformes, dans le GIEC, dans l'IPBES, qui est donc le GIEC de la biodiversité, là, il y a des gens qui élaborent des scénarios d'adaptation ou de mitigation possible pour gérer les situations, éviter que la catastrophe se transforme en cataclysme. Mais pour le moment, tout ça sont des hypothèses. Hein. Donc, à Paris, lors de la COP21, pour parler du climat, les gouvernements du monde ont, pour la première fois, en un quart de siècle, ils se sont enfin prononcés sur ce qui était le seuil de dangerosité du changement climatique à ne pas dépasser. Donc, ils l'ont fait à travers une formule un peu ambiguë, rester bien au-dessous de 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, tout en continuant les efforts pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. Mais en réalité, ils ne savent absolument pas comment ils pourraient atteindre ni l'un ni l'autre de ces deux objectifs, et pour une raison évidente, qui est que le capitalisme est par définition un système qui a besoin de croissance du PIB, d'accumulation de capital, donc de ce qu'on appelle du productivisme, qui se nourrit d'extractivisme, si vous voulez, comme le disait Schumpeter, qui est un économiste pas du tout anticapitaliste, au contraire, un économiste ayant pignon sur rue, considéré comme une sommité. Il disait « un capitalisme sans croissance, c'est une contradiction dans les termes ». Il a parfaitement raison, c'est le bon sens même. Un capitalisme stationnaire n'en déplaise à certains penseurs contemporains. C'est une vue de l'esprit. Et donc, on est entraîné vers quoi ? On est entraîné vers la transformation de la catastrophe en cataclysme. Ça, c'est ce qui pourrait se passer si les négationnistes du changement climatique à la Trump ou à la Bolsonaro l'emportaient. Hein, donc, ce n'est pas un scénario impossible. Ou bien alors, on va vers une situation où des gouvernements vont à un certain moment devoir prendre des mesures pour essayer de gérer la situation. Et ils le feront comment ? Ben, ils le feront en essayant de compenser le productivisme capitaliste par des technologies d'apprentis sorciers pour refroidir la planète. Quand on lit un peu les publications scientifiques sur ce sujet-là, il y a de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Enfin, il y a deux familles de ces technologies. Il y a ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Ça, c'est l'ensemble des technologies qui visent à réduire la quantité de rayonnement solaire qui entre dans l'atmosphère. Et puis, il y a ce qu'on appelle les technologies à émissions négatives, où là, l'objectif, c'est de retirer du CO2 de l'atmosphère. La première famille, la géo-ingénierie, là, c'est vraiment le summum du summum des apprentis sorciers, parce que ça ne change rien à la quantité de CO2 dans l'atmosphère, donc ça ne change rien, par exemple, à l'acidification des océans qui menace les écosystèmes marins. Et en plus, sur le plan géostratégique, la géo-ingénierie, elle pourrait parfaitement être manipulée par les superpuissances, qui sont les seules qui pourraient la mettre en œuvre, d'ailleurs techniquement et financièrement. Elle pourrait être manipulée pour des objectifs géostratégiques. Hein. Donc un gouvernement américain, par exemple, pourrait manipuler le climat pour qu'il reste favorable à sa base électorale des agriculteurs du Midwest, mais aux dépens des paysans ou des pasteurs du Sahel. C'est tout à fait envisageable. Donc la géo-ingénierie, pour le moment, heureusement, le GIEC la déconseille. Et les technologies à émissions négatives, ben, c'est à peine moins effrayant. Donc ces idées de retirer du CO2 de l'atmosphère, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Ce qu'on dit la plus mature de ces technologies, c'est ce qu'on appelle la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Elle est présente dans plus de 90% des scénarios du GIEC pour la stabilisation du climat. Hein. Donc, même si rien n'est décidé, c'est très clairement dans ce sens-là que le productivisme capitaliste nous mène. Alors, ça consiste en quoi ? Ben, l'idée de base, elle est relativement simple. Chacun sait, s'il a étudié la photosynthèse à l'école, que les plantes vertes poussent en absorbant du CO2 de l'atmosphère et en le transformant en molécules organiques grâce à l'énergie solaire et à la chlorophylle. Donc, si on remplace les combustibles fossiles par de la biomasse dans les installations de combustion et qu'on capte le CO2 produit par cette combustion à la sortie de ces installations et qu'on le comprime et qu'on l'injecte sous terre et qu'il y reste, ce que personne ne peut garantir, théoriquement, à la longue, on devrait pouvoir réduire la concentration atmosphérique en CO2. Le problème, c'est les superficies nécessaires pour planter suffisamment de biomasse que pour avoir un effet suffisant en termes de réduction de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et là, on arrive à des impossibilités, des absurdités effrayantes. Selon certaines études, il faudrait entre 15 et 20% de la superficie agricole cultivée en permanence aujourd'hui pour retirer un dixième, 3 gigatonnes, moins d'un dixième des émissions de CO2 annuelles. Or, dans les scénarios les plus extrêmes du GIEC, on parle de retirer 20 gigatonnes, presque 7 fois plus de CO2 de l'atmosphère chaque année. Et pour retirer seulement 3 gigatonnes, il faudrait 15 à 20% de cette superficie agricole cultivée en permanence. On s'oriente vers des dystopies intégrales.
Oui, et comme tu le montres bien dans le livre, il n'y a que le scénario dans lequel on arrêterait tout de suite les émissions massives de gaz à effet de serre où l'on pourrait rester dans ce fameux seuil de soutenabilité entre les 1,5 ou 2 degrés et ne pas arriver au scénario d'une planète étuve, en fait.
Arrêter tout de suite partout n'est évidemment pas possible, mais enfin, c'est pratiquement de ça qu'il s'agit, puisque selon ce scénario-là, le seul qui permettrait de se passer de ces technologies d'apprenti sorcier, c'est-à-dire le seul qui permettrait de rester vraiment constamment en dessous de 1,5 degré sans dépassement temporaire, ben, il faudrait pour l'atteindre réduire les émissions mondiales de 58% d'ici 2030 et de 100% d'ici 2050. Mais 58%, enfin, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. Pourtant, c'est très simple de le comprendre. À peu près 80% du CO2 est émis par la combustion des combustibles fossiles, donc charbon, pétrole et gaz naturel. Et ces combustibles fossiles couvrent à peu près 80% des besoins énergétiques de l'humanité. Donc, sachant ça, on prend la mesure de ce que ça signifie, réduire de 58% les émissions mondiales nettes de CO2 d'ici 2030. C'est un objectif absolument vertigineux, hallucinant, qui, s'il est encore réalisable, je n'oserais pas en jurer qu'il le soit, mais s'il l'est, il ne peut être atteignable qu'en supprimant massivement les productions inutiles et nuisibles, et donc les émissions qui y sont liées. Cette opération-là pose des tels défis sociaux, produire moins, transporter moins, comme je dis dans le bouquin, ça pose de tels défis sociaux que ce n'est réalisable que si on partage plus. Si le résultat, c'est que les millions de travailleurs et de travailleuses qui dépendent de productions inutiles et nuisibles, je ne sais pas moi, la production d'armes par exemple, ou la production de tous ces gadgets qui en fait ne servent à rien dans l'existence, ou la production de véhicules automobiles à moteur thermique ou même à moteur électrique qui doit diminuer radicalement. Si tous ces gens-là se retrouvent au chômage, ben, ils ne voudront jamais de la transition évidemment. Donc il faut leur garantir une reconversion, le maintien d'un revenu digne ou l'amélioration même de leurs revenus et de leurs conditions sociales. Pour produire moins et transporter moins, il faut impérativement partager davantage, donc remettre radicalement en question les inégalités sociales développées par le système capitaliste et par son régime néolibéral.
C'est l'habitude qui nous manque, on ne sait pas jeter des cris. Hurler contre ce qui nous flanque la tête au mur certaines nuits. On ne sait pas claquer les portes, fermer ses oreilles et ses yeux, jeter au diable et qu'il l'emporte tout ce qui nous déchire en deux. Un rien, une paille, un copeau, une plume de moineau. On ne veut pas peser plus. Plantée dans le dos, on ne veut pas montrer le sang qu'on saigne au-dedans. Mais rien qu'une fois, faire des vagues et tout casser, rien qu'une fois, dire je pleure et vous ne voyez pas, dire je meurs et vous restez là, vous restez là. Rien qu'une fois, faire des vagues et que ça bouge et que le ciel devient. L'habitude qui nous pousse à ne jamais peser trop lourd, à bien éviter les secousses, à faciliter le parcours. On ne sait pas plier bagages et profiter du temps qui va. On veut éviter les naufrages, les bateaux ne le savent pas. Rien, une paille, un copeau, une plume de moineau, on ne soupire pas plus fort. Un couteau, une épée plantée dans le dos, on dit que ça nous gêne un peu, que ça ira mieux, mais rien qu'une fois, faire des vagues et tout casser, rien qu'une fois, dire je coule et je me noie pour vous, dire je sombre et vous parler de tout, rien qu'une fois, faire des vagues. Et qu'on parle la même langue, et qu'on chavire une fois. n'était rien. Mais laissez-moi faire les vagues, mais laissez-moi faire les vagues et tout casser, rien qu'une fois, rien qu'une.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On vient d'écouter Anne Sylvestre, rien qu'une fois, pour rendre un petit hommage à cette chanteuse qu'on aime beaucoup. Et on repart tout de suite pour Liège pour retrouver la rencontre entre Daniel Tanoureau et Students for Climate pour la présentation du livre Trop tard pour être pessimiste.
L'agro-business aujourd'hui, c'est plus ou moins 48% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc continuer dans cette logique, c'est foncer droit dans le mur. Et en fait, tu expliques bien dans le livre que le fonctionnement actuel et nécessaire du capitalisme vert, c'est nécessairement une stratégie du dépassement temporaire. Voilà ce que tu pourrais nous expliquer, ce dépassement temporaire.
Il faut rappeler le sommet de la Terre de Rio en 1992. C'est là que l'inquiétude scientifique pour la possibilité d'un basculement du climat de la planète a réussi à faire une première percée au niveau politique, au niveau des États. Et ce sommet de la Terre a adopté une convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et dans ce texte, il fait marquer que l'objectif des politiques climatiques, c'est de prévenir, d'empêcher une perturbation anthropique dangereuse du climat de la Terre. Puis il a fallu attendre près de 25 ans pour que le niveau de la dangerosité soit fixé à Paris, parce que des tas de lobbies s'y sont opposés. On a dit que ce serait 2%, qu'on pourrait aller jusqu'à 3%. On se rend compte aujourd'hui que déjà 1%, 1 degré, pardon, excusez-moi, 1 degré, c'est déjà des catastrophes. Enfin, ça fait la quatrième année consécutive en Europe occidentale qu'on a des sécheresses et des canicules tout à fait anormales. Donc on est déjà dans la catastrophe. Mais on a attendu tellement longtemps avant de commencer à envisager de peut-être débuter des mesures un peu sérieux sur la réduction du phénomène, que les gouvernements sont véritablement au pied du mur. Et donc, comme il est exclu pour eux de prendre le type de mesures radicales que j'ai résumé par la formule « produire moins, transporter moins et partager plus », qui est le pendant social, la condition sociale, pour que ce programme soit réalisable, ben, la seule perspective qui leur reste, ce qu'ils appellent dans la littérature scientifique un dépassement temporaire du seuil de dangerosité qu'ils ont eux-mêmes adopté, le seuil de 1,5 degré adopté à Paris, avec l'idée que dans la deuxième moitié du siècle, grâce à la bioénergie avec capture et séquestration du carbone, éventuellement grâce à d'autres technologies qui évidemment ne manqueront pas d'être découvertes, c'est toujours l'idée d'un Deus ex mach qui va sauver le capitalisme de ses contradictions, que donc dans la deuxième moitié du siècle, on refroidira la planète pour revenir en dessous du seuil de dangerosité. Le problème, mais qui est admis par des scientifiques qui ne sont pas des agitateurs bolcheviques ou écosocialistes, des gens tout à fait raisonnables. Le problème est qu'on est dans une situation tellement grave que des accidents irréversibles pourraient se produire pendant le dépassement temporaire, donc des accidents définitifs. Et il y en a un en particulier qui nous pend au-dessus de la tête, comme l'épée de Damoclès. Qu'on franchisse le point de basculement à partir duquel la dislocation de la calotte glaciaire du Groenland, de partie de la calotte glaciaire antarctique, le point à partir duquel ces basculements deviennent irréversibles. C'est-à-dire qu'on ne sait plus les arrêter. Alors, selon le rapport spécial 1,5 degré du GIEC, le point de basculement de la calotte glaciaire du Groenland se situe quelque part entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. On est déjà à 1,2 de réchauffement. Selon ce même rapport, si rien ne change en matière d'émissions, le degré et demi sera franchi autour de 2040. 2040, en termes socio-économiques, c'est demain, c'est peut-être même encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est vraiment au bord d'une phase d'extrême dangerosité, parce que la quantité de glace accumulée sur la calotte glaciaire du Groenland, si elle devait disparaître totalement, équivaudrait à 6 ou 7 mètres de hausse du niveau des océans. C'est-à-dire, une fois que cette glace est transformée en eau et se retrouve dans les océans, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, par des moyens technologiques, de la retransformer en glace pour la remettre d'où elle est venue. Hein. Ça, c'est une transformation qui est quasi irréversible à l'échelle géologique des temps. Le dépassement temporaire du seuil de dangerosité, qui est ce vers quoi nous allons, à cause de la logique productiviste du capitalisme, ce dépassement temporaire est malheureusement un scénario qui devient de plus en plus probable. À chaque jour qui passe où des mesures radicales ne sont pas prises pour combattre le productivisme inhérent au système, chaque jour qui passe nous rapproche de ce scénario-là.
Et donc, il pourrait vraiment nous amener dans le fameux scénario d'une planète étuve.
C'est un concept qui a été proposé par des chercheurs américains dans une publication qui est parue en août 2018 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences des États-Unis, qui est une publication extrêmement sérieuse parmi les publications soumises à la peer review. C'est vraiment dans le top 10 des publications les considérées comme les plus sérieuses et les plus crédibles. Et ces scientifiques-là considèrent que on ne peut pas avoir une image, si vous voulez, morcelée, on ne peut pas juger au cas par cas les différences, ce qu'on appelle les différents points sensibles du système climatique. Il faut au contraire voir leurs interactions possibles, c'est-à-dire on ne peut pas juger séparément le danger de dislocation de la calotte du Groenland, le danger de perturbation des grands courants marins, le danger de transformation de la forêt amazonienne en savane, le danger de fonte massive du permafrost. Dans leur étude, il montre au contraire que tous ces phénomènes pourraient s'engrener et la dislocation de la calotte du Groenland pourrait être le premier domino qui tombe et qui fait tomber les autres, qui pourrait, en augmentant rapidement la quantité d'eau douce dans l'Atlantique Nord, perturber les grands courants thermohalins, donc les grands courants océaniques, en particulier un courant qui s'appelle, j'ai oublié le nom maintenant, c'est pas le Gulf Stream, c'est un autre courant de l'Atlantique qui exerce une influence déterminante sur le climat dans le bassin de l'Amazone, que dès lors l'Amazone pourrait se transformer beaucoup plus vite qu'on le craint en une savane. Une savane absorbe évidemment moins de CO2 qu'une forêt équatoriale, que donc le réchauffement s'accélérerait encore plus, qu'on pourrait atteindre les points de basculement de certaines parties de la calotte antarctique, etc., etc., au point qu'on pourrait se retrouver à la fin du siècle avec une hausse de température de 4,5 à 5 degrés par rapport à la période pré-industrielle et confronté à une série de phénomènes terribles et totalement irréversible par l'action humaine, hein, et réversible seulement à l'échelle géologique des temps. Mais on ne peut absolument pas compter, je pense, sur la logique capitaliste et les gouvernements capitalistes pour le contrer, parce que, encore une fois, ils sont soumis à la loi des reins du capitalisme, qui est la croissance du PIB, l'accumulation du capital.
Et on reprend l'écoute de la rencontre qui avait lieu le 28 octobre dernier est organisé par les Students for Climate, auteur du livre de Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimiste.
On a beaucoup parlé de ce qui allait mal et on va peut-être un petit peu parler des alternatives que tu proposes et de ce qui serait possible de mettre en place. Est-ce que tu pourrais nous faire quelques différences entre le projet écosocialiste que toi tu proposes et des différences saillantes avec la fameuse collapsologie ou l'effondrement?
C'est un peu difficile parce que il y a presque autant de versions de la collapsologie qu'il n'y a de collapsologues. Hein. C'est un peu une difficulté. Mais enfin, disons, ceux qui tiennent le haut du pavé, notamment Pablo Servigne, qui a vécu et milité longtemps à Liège, une dizaine d'années, dans des milieux libertaires, leur pronostic, enfin, ou leur diagnostic, c'est que tout va s'effondrer, qu'il n'y a plus rien à faire, que cet effondrement est inévitable, qu'on ne peut pas s'y opposer, qu'il faut abandonner l'illusion de pouvoir s'y opposer et que la seule chose à faire, c'est de fonder des petites communautés résilientes pour préparer l'après-apocalypse. Alors, moi, ça me pose beaucoup de problèmes. Le problème n'est pas sur le diagnostic. Je trouve que les collapsologues, parfois, ils exagèrent un peu, ils forcent un petit peu le trait dans le sens du catastrophisme, mais je dirais cette bonne guerre, et il m'arrive de le faire aussi, et je crois que tous les militants inquiets de l'évolution de la situation et de la catastrophe le font un peu pour convaincre autour d'eux. Bon, c'est pas ça l'essentiel du problème. L'essentiel du problème, c'est le fatalisme qu'ils diffusent autour d'eux. Hein. Dans leur dernier ouvrage, c'est tout à fait évident, j'ai oublié maintenant le titre de cet ouvrage, le trio l'a écrit, hein, Servigne, Stephens et Chapelle, et ils font une comparaison entre ce qu'ils appellent l'effondrement, qui n'est d'ailleurs pas très défini, on ne sait pas vraiment ce qui va s'effondrer, hein, mais soit. Ils font une comparaison entre l'effondrement et une maladie génétique, le plus souvent mortelle, contre laquelle on ne peut rien au niveau médical. Elle a été étudiée par des philosophes qui ont suivi le cas de personnes atteintes par cette maladie, donc de personnes qui savent qu'elles sont condamnées. Et des philosophes, notamment Isabelle Stengers en Belgique, ont accompagné un collectif de personnes atteintes de ce syndrome, de cette maladie génétique, et ont rédigé une espèce de documents ou de vademecum à forte composante philosophique, comment est-ce qu'on se comporte, qu'est-ce qu'on tire comme leçon quand on est atteint de cette affection incurable. Et nos collapsologues, ils font une comparaison entre le effondrement et la condamnation à mort des personnes atteintes de cette maladie. Et ils disent la première chose à faire, c'est d'accepter de ne plus se battre. Effectivement, si on pense qu'on est tout à fait condamné, qu'il n'y a rien à faire, il vaut mieux la prendre cool, la prendre zen et essayer de profiter des jours qui restent avant de passer de vie à trépas. Et ça définit un peu l'attitude sociopolitique des collapsologues. Ils disent que la société actuelle est une voiture qui fonce en accélérant contre un mur ou vers un gouffre. Et avec ça, je suis entièrement d'accord. Mais eux, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent de sauter de la voiture en marche pour aller danser dans les forêts à la pleine lune et cultiver des jardins en permaculture. Et je n'ai rien, ni contre la danse à la pleine lune, ni contre la permaculture, mais je pense qu'il y a socialement et politiquement autre chose à faire, quelque chose de plus social, de plus collectif. Il faut mettre hors d'état de nuire le chauffeur de la voiture et convaincre tous les passagers de détruire ce véhicule et de ne plus jamais construire un véhicule du même genre, parce que c'est un véhicule qui nous conduit à notre perte. C'est un grand, grand problème du fatalisme. Et ce problème, il peut prendre des formes de droite, ou voire même d'extrême droite. Hein. Il y a une fraction du courant survivaliste qui sont des néo-fascistes ou des fascistes purs et simples. Alors je n'accuse absolument pas Servigne et ses amis de tomber de ce côté-là, pas du tout. Mais je veux dire, il y a un flou. Et même un de leurs grands amis, qui est Yves Cochet, l'ex-ministre vert du gouvernement Jospin, c'est vraiment l'aile droite de cette collapsologie. Enfin, moi, je le décris comme une espèce de gentleman farmer de la collapsologie, parce qu'il a les moyens, en tant qu'ex-ministre. Il s'achète un terrain de 8 hectares en Bretagne, si je ne me trompe, et vit là de façon écologique, il se déplace en charrette à cheval, il a son puits d'eau douce, il produit ses légumes, l'effondrement peut venir, il est prêt. Et il y a une interview célèbre de lui dans Libération, si je me souviens bien, où le journaliste, à la fin de l'entretien, lui demande « Et vous accueillerez des réfugiés sur votre petit îlot de survivance ?» Et il répond, en citant la phrase fameuse de Rocard, « Ah, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Sans doute, ça se voulait de l'humour, mais c'est le genre d'humour que je n'apprécie personnellement pas du tout. Mais alors là, pas du tout. C'est un humour qui témoigne d'un cynisme et d'une misanthropie qui m'effraie et qui peut faire le jeu d'une véritable extrême droite.
En plus, même malheureusement, des gens comme Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, même si on imagine bien que leur première intention n'était pas là, mais opèrent une forme de régression archaïque, comme tu en parles dans leur dernier livre, en appelant à des rituels néo-masculinistes.
Je crois que je suis un des premiers auteurs de gauche qui se soit intéressé au travail des collapsologues. Quand ils ont sorti leur premier bouquin, Stevens et Servigne, j'ai écrit un article « L'effondrement dans la joie ?» Bon, c'était un article critique, mais amical. dans lequel je disais notamment cette histoire sur la parabole de la voiture, là, sauter en marche ou bien mettre hors d'état de nuire le chauffeur. Et Pablo avait repéré ça sur la toile et il avait écrit publiquement sur Facebook, voilà, enfin une critique intéressante de notre travail. Puis on avait échangé quelques messages privés, il faut qu'on se voit, il faut qu'on en discute, etc. Et puis au fil du temps, les désaccords se sont approfondis et avec leur troisième bouquin, le désaccord a, pour ma part, a véritablement pris une ampleur qualitativement différente, notamment parce que, comme tu l'indiques, ils flirtent là-dedans avec des auteurs qui sont des représentants de la régression archaïque d'extrême droite ou fascistoïde. Je suis même convaincu que Pablo Servigne est plutôt un libertaire qui croit que le capitalisme va s'effondrer et que du coup, un système autogéré de petites communautés locales, résilientes, pourra triompher. Ce qui, à mon avis, est un scénario complètement utopique. Mais dans le bouquin, il cite abondamment le psychanalyste dissident de Freud, Carl Gustav Jung, qui était un nazi. Il était un nazi, ou plutôt sa confluence avec les nazis résultait, disons, d'une grille de lecture réciproque comme quoi l'avenir de l'humanité, dans son passé le plus archaïque, dans ses instincts les plus sauvages, dans ses instincts brutaux, dans les rôles, les archétypes de l'homme, du mâle et de la femelle. Et ça les amène à faire l'éloge d'un truc que je trouve extrêmement suspect, qui est une espèce de multinationale masculiniste qui gère un bazar qui s'appelle le Mankind Project pour fonder des nouveaux guerriers, hein, des New Warriors, des hommes, des mâles qui font des retraites entre mâles, où ils dansent nus dans les forêts, ils passent toute une... enfin, personne ne sait exactement ce qu'ils font, tout un truc d'initiation pour retrouver leur véritable archétype mâle. Là, je trouve que c'est... ça ne va pas. Je ne crois pas que le futur de l'humanité soit dans le retour vers cette image, qui n'est peut-être même pas une réalité de ce qu'étaient les sociétés archaïques. Et il ne se contente pas de citer Jung, il cite aussi Mircea Eliade, dont le cas est encore plus grave que celui de Jung, parce que lui, c'était un militant fasciste, membre de la garde de fer en Roumanie, violemment antisémite, qui, après-guerre, a réussi, parce que c'était un malin, comme Jung d'ailleurs, à se faire passer pour un scientifique spécialiste des religions, de même que Jung réussissait à se faire passer pour un psychanalyste spécialiste des problèmes de l'inconscient collectif. Il fallait tirer la sonnette d'alarme et j'ai pondu un article qui a été publié sur la revue Web Contretemps, La plongée des collapsologues dans la régression archaïque, et j'ai repris pas mal d'éléments de cet article dans le bouquin. Et depuis lors, il n'est plus question véritablement de débat entre nous. Je le regrette, mais c'est comme ça.
Where are you?
What are you up to?
Just recording.
Oh, I was really upset you couldn't talk to me for at least 5 minutes yesterday. No, I really was, because I was really upset and I needed you to just be there for me. And I felt like you dismissed me.
I'm sorry. Flo, Flo. Yeah, on the ledge. Lately I ask myself why the stress off my head. I wanna take the pressure off my friends, this ain't a trend. Maybe I ain't no longer interested, this how we end. I don't need no Zans, look, you know I need advances. I really came from crisis, but I just wanna dilate. My best friend died, that's tragic. Now all I know is mad wrist. Yo, fuck it, I'm maverick. Watch out, my wrist is magic. Cross on my shit, I might switch, I might flick on my beast. Flo, Flo with the juju, yo. I could turn you cuckoo, honey, never rock no football, huh? You can't fuck my lineage up. See me, I be my manager. Got the shoe like Avengers. You in love my character.
all my energy right now. Energy, 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 and energy quickly. Energy, 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 got more energy in me. Energy, 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 and it's energy right now. Energy, 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 got my energy right now. Energy, 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 and it's energy right now. Energy, 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 don't need the energy back now. Energy, 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 got my energy quickly. Energy, 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 where's your energy right now?
Rebonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous êtes toujours sur Zoom Écologie. On retrouve dès maintenant la rencontre avec Daniel Tanoureau pour la présentation de son livre « Trop tard pour être pessimiste » avec les Students for Climate de Liège.
Tu proposes comme solution alternative à tous ces discours actuels sur l'écologie, l'écosocialisme. Est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement le projet écosocialiste ?
L'idée de l'écosocialisme, c'est qu'il faut une solution anticapitaliste de type socialiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une solution qui exproprie le capital et qui remplace la production de valeurs d'échange, c'est-à-dire de marchandises, par une production d'utilité, ou comme dit Marx, de valeurs d'usage. Et des valeurs d'usage qui doivent répondre aux besoins humains réels, pas aux besoins humains aliénés par la marchandise. Donc là, il y a toute une discussion philosophique peut-être sur ce que sont les besoins humains réels et que ces besoins humains réels doivent être démocratiquement déterminés. Bon, alors ça, en bref, c'est la définition d'une société socialiste. C'est ça, une société socialiste. Et ce n'est pas les caricatures qu'on a connues au XXe siècle, ni sous la forme des régimes staliniens, ni sous la forme de la social-démocratie qui gérait ou qui co-gérait le capitalisme. Donc, on a besoin d'un projet de type socialiste, démocratique, internationaliste, féministe, décolonial, tout ce que vous voulez. En même temps, et c'est pour ça qu'on met le préfixe éco, il faut rompre radicalement avec ce que Daniel Ben Saïd appelait les scories productivistes à l'intérieur du projet socialiste et même à l'intérieur de la pensée de Marx. J'apprécie énormément l'ouvrage bien connu de John Bellamy Foster, Marx's Ecology, l'écologie de Marx, qui a été traduit en français. C'est un très bon livre, mais je pense qu'il donne une vision un peu apologétique, considérant que l'écologie, il a même écrit d'ailleurs dans un autre livre, que l'écologie est au cœur du marxisme, et ça me semble faux. Même chez Marx, dont les intuitions écologiques et dont la compréhension très précoce de la contradiction entre le productivisme capitaliste et les limites de la planète était tout de même remarquable pour un penseur de son époque, même chez lui, il y a des tensions. Mais chez ses successeurs idéologiques, enfin, je m'excuse, mais ça a été de mal en pis ou presque, hein, à l'exception de Walter Benjamin, qui lui s'insurgeait en fait contre la citation bien connue comme quoi il fallait libérer la société des entraves capitalistes au développement des forces productives, citation qui sort du manifeste communiste écrit par Marx et Engels. Benjamin, lui, c'est le premier qui, avec une telle force, a retourné cette formule et qui a dit qu'il n'était pas question de libérer le développement des forces productives, qu'il fallait au contraire arrêter la locomotive avant qu'elle nous amène droit dans le mur. Il y a une citation que j'ai reprise dans le cinquième chapitre de mon ouvrage, « Il faut éteindre la mèche avant qu'elle n'atteigne la dynamite », c'est ça. Bon, mais à part lui, la plupart des autres penseurs se réclamant de la pensée de Marx et d'Engels au cours du XXe siècle, en sont restés à des conceptions, disons, qui ne rompaient pas radicalement et clairement avec l'idée d'un développement infini, illimité des forces productives et de la production matérielle. Alors, on peut discuter plus dans les détails sur la politique de Lénine, qui était plus intelligente que ça, hein, qui a compris l'importance de ce qu'il appelait la défense des monuments de la nature, qui a fait des choses malgré des situations terriblement difficiles en plein milieu de la guerre civile, qui a fait des choses qui témoignaient d'une véritable prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement. Globalement, le mouvement socialiste a été contaminé par le productivisme et il l'a été assez profondément, hein. J'admire beaucoup Léon Trotsky. Je considère que c'est un très grand révolutionnaire, un penseur brillant. On lui doit une théorie de la bureaucratie en tant que couche privilégiée, et c'est une théorie remarquable. Il a d'autant plus de mérite qu'il l'a élaborée à chaud, alors que le phénomène était en train de se développer sous ses yeux et que personne ne comprenait pourquoi ceux qui avaient participé à la prise du pouvoir de 17 devenaient de nouveaux despotes. Donc c'est un type admirable, mais il était à 100 lieues d'une pensée, même de balbutiement d'une pensée écologiste. Il a eu cette citation fameuse où il disait « L'homme socialiste déplacera les montagnes, enfermera les mers, détournera les fleuves ». Vraiment des délires de domination de la nature au sens très physique de la domination. Et donc les éco-socialistes, ils veulent éliminer toutes ces scories du productivisme à l'intérieur du projet socialiste. Ça implique des choses précises en termes de stratégie et de programme, puisqu'il faut produire moins, transporter moins et partager plus. Ça implique aujourd'hui un rôle central, une place centrale pour la revendication d'une réduction très, très radicale du temps de travail. Réduction collective, sans perte de salaire, avec embauche proportionnelle, avec diminution des rythmes de travail, peut-être même avec augmentation des salaires dans certains secteurs, étant donné les ravages qui ont été faits dans le revenu des travailleurs. Bon, pour le dire très concrètement, il va falloir supprimer toute une série d'activités inutiles ou nuisibles. Par exemple, la production d'armes. À Liège, ça vous concerne, et on sait que c'est une question très délicate vis-à-vis du mouvement syndical. Si on dit « on va arrêter de produire des armes », vous avez des syndicalistes qui s'insurgent et qui disent « oui, mais l'emploi ». Et ils ont raison, on ne peut pas envoyer tous ces gens-là au chômage. Donc il faut combiner une réponse en termes de réduction du temps de travail, mais elle va être insuffisante. Il faut donc la combiner avec des propositions qui visent à développer de nouvelles activités utiles socialement et écologiquement. Et ça, à mon avis, ça veut dire des activités dans le secteur des soins aux personnes et des activités dans le secteur des soins aux écosystèmes pour réparer ce que le capitalisme a détruit. Et avec la pandémie, ben on a la preuve qu'il faut effectivement investir massivement dans le secteur des soins aux personnes. Mais ça n'intéresse pas véritablement les capitalistes. Ce qui les intéresse, c'est de vendre du matériel médical. De même, investir dans le soin de réparation aux écosystèmes, c'est absolument indispensable si on veut sauver ce qui reste de la biodiversité. Et ça doit être pris en charge par le secteur public ou par le secteur parapublic. Voilà, donc, moi, je n'ai pas de réponse. Enfin, personne dans son bureau tout seul ne peut écrire un programme de transition vers une société écosocialiste qui aille dans le détail. Mais on peut tout de même brosser à gros traits des principes directeurs, et je crois que deux principes directeurs importants, c'est un, une réduction massive du temps de travail, je dirais au moins, enfin au maximum une demi-journée de travail, 3h30 par travail, ça me semble comme ça, à vue de nez, quelque chose de compatible avec les efforts qu'il faut faire pour stabiliser le climat. Et l'autre grande piste, me semble-t-il, c'est le développement d'un secteur de soins aux personnes et de soins aux écosystèmes. Et les deux doivent être financés quelque part. Et pour les financer quelque part, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre l'argent là où il est. Donc il faut exproprier le secteur de la finance et exproprier le secteur des combustibles fossiles qui s'opposent à la transition.
Et l'autre point qu'on pourrait aborder pour finir cette discussion, c'est un des points que tu mets en avant, qui est la convergence des luttes entre les luttes sociales, écologiques, féministes et décoloniales, qui est prioritaire pour aller vers une société écologique, mais juste en général.
Ça semble un thème à la mode quand on parle convergence des luttes. Bon, j'y donne un contenu stratégique très, très, très concret, à partir d'un constat qui est qu'aujourd'hui, sur le front de la lutte contre la catastrophe écologique, il y a des avant-gardes et il y a des arrière-gardes sociales. Et à l'avant-garde, qui est-ce qu'on trouve? D'abord les peuples indigènes qui se battent pour sauvegarder la forêt, pas parce que, comme ça, parce qu'ils sont pour la forêt, mais parce que c'est leur forme de production de leur existence, c'est cette relation qu'ils ont avec la forêt. Puis il y a les paysans, les petits paysans et les petites paysannes, en particulier ceux qui sont organisés dans Via Campesina, qui est tout de même un syndicat de plusieurs millions d'affiliés et d'affiliés au niveau mondial et qui défend un projet d'agroécologie explicitement dédié non seulement à la survie et à la vie bonne des producteurs et des productrices et à la souveraineté alimentaire des populations. Ils ont toute une réflexion sur la manière dont une agroécologie permettrait de capter massivement du CO2 dans les sols, de le garder dans les sols, limiter les productions d'engrais qui envoient beaucoup de CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère, etc., etc. Donc, les peuples indigènes, les paysans, la jeunesse, ben, vous vous appelez « students » et « youth for climate », c'est pas par hasard. Qui aurait cru ça il y a 3 ans ou 4 ans qu'on verrait surgir cette étrange personnalité de Greta Thunberg, qui, en faisant grève devant le Parlement suédois et en lançant des appels relayés sur la toile, permet de mettre en grève et en manifestation des millions de lycéennes et de lycéens. Il y a non seulement les jeunes dans les manifestations climat sages et pacifiques, mais il y a aussi le rôle de pointe des jeunes dans les actions, ce que Naomi Klein appelle la blocade, les luttes plus dures qui visent à empêcher les projets fossiles, Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport, la campagne Ende-Gelände en Allemagne contre l'exploitation du lignite, l'occupation des mines de lignite, etc. La lutte des Sioux et de tous ceux qui les appuient aux États-Unis contre la construction des pipelines et l'occupation à Standing Rock pendant des mois. Voilà, donc là, c'est la jeunesse vraiment qui est en première ligne. Dans ces 3 secteurs, jeunes, agriculteurs et peuples indigènes, on a le même phénomène qui est que les femmes sont en première ligne. Pas toujours, mais proportionnellement, il y a plus de femmes qui sont actives et qui jouent un rôle de premier plan dans ces luttes-là. Alors ça renvoie à tout un débat qui traverse ce qu'on appelle la mouvance écoféministe, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas tellement qualifié pour ça en tant qu'homme, mais disons, il y a d'une part des écoféministes qui disent que par essence, par nature, les femmes sont plus sensibles aux questions écologiques, et puis il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, ce n'est pas une question de nature des femmes, que le patriarcat attribue aux femmes dans le cadre de leur oppression, qui les contraint à s'occuper essentiellement du soin des enfants, du soin du ménage, du soin, etc. Et donc, par extension, qui les rend plus sensibles aux questions de la dégradation de l'environnement. Personnellement, je suis plutôt partisan de la deuxième explication. Donc, on a là 4 secteurs qui sont à l'avant-garde. Les femmes, les jeunes, les peuples indigènes et les paysans. Et à l'arrière-garde, ben, malheureusement, il y a le mouvement ouvrier. C'est un constat. Enfin, je veux dire, il y a très peu de participation active de collectifs ouvriers, de secteurs syndicaux aux luttes contre la destruction de l'environnement. Et l'explication est assez simple, évidemment. L'explication, c'est que ben, tout travailleur, toute travailleuse dépend de son salaire à la fin du mois pour payer les études de ses enfants, les soins de santé, le loyer ou les traites de la maison, etc., etc., et que pour faire tout ça, il a besoin de son salaire, et que si l'entreprise de son employeur fait faillite, il n'y a plus de salaire. Il y a ce que j'appelle une espèce de compromis productiviste, une situation dans laquelle le monde du travail qui, objectivement, historiquement, aurait un intérêt à l'abolition du capitalisme, puisque ce système l'exploite, et au plus les rapports de force sociaux se dégradent, au plus le monde du travail est pris dans cet engrenage productiviste de compromis avec les objectifs de croissance capitaliste. Ça, c'est, si vous voulez, le point de départ à partir duquel j'analyse ou je pose la question de la stratégie de convergence des luttes. Et pour moi, ça veut dire qu'elle consiste en ceci. Elle ne consiste pas à dire « cherchons le plus petit commun multiple » entre le monde du travail, l'arrière-garde et les avant-gardes. Non, elle consiste à faire converger les luttes des avant-gardes pour essayer d'atteindre un seuil critique, une masse critique, qui crée des situations de crise politique où la classe dominante ne peut plus diriger normalement et où se posent dès lors des problèmes d'avenir de la société face auxquels les travailleurs et leurs organisations sortent le nez du guidon et voient des problèmes à plus long terme, des problèmes sociétaires, et se positionnent face à ces problèmes en fonction de leur intérêt historique d'abolir le capitalisme. C'est ça que j'entends par la stratégie de convergence des luttes. Alors, ça peut sembler très abstrait, c'est pour ça que dans le bouquin, j'ai donné quelques exemples, et un en particulier qui me semble véritablement paradigmatique, hein, c'est l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde sait que la lutte à Notre-Dame-des-Landes a été gagnée grâce d'abord à l'acharnement des zadistes, à l'alliance des zadistes avec les riverains et à l'alliance avec les petits agriculteurs locaux qui étaient, disons, hors des grandes fédérations de l'agro-business. Et il faut d'abord donner un grand coup de chapeau, en particulier aux zadistes, qui par leur acharnement pendant des décennies, l'occupation du terrain, ont rendu tout ça possible. Si cette lutte était restée enfermée sur le territoire, je pense qu'elle aurait été écrasée comme beaucoup d'autres luttes semblables. L'intelligence des animateurs de ce combat a été de sortir le problème de sa dimension locale, d'en faire une question politique à l'échelle de la France tout entière. Et quand la question s'est posée en termes politiques, toutes les forces sociales et autres ont été obligées de répondre par oui ou par non à la question « Faut-il construire cet aéroport, oui ou non ?» Et la CGT de Vinci, c'est-à-dire le principal syndicat de l'entreprise de BTP, la multinationale, qui devait construire l'aéroport, a dit « Non, il ne faut pas le construire ». Et ça, c'est remarquable. Les animateurs de ce secteur du syndicat n'ont pas fait ça au doigt mouillé, comme on dit, ou pour emmerder Macron. Ils l'ont fait d'abord parce qu'ils ont été démarchés par les animateurs du combat local, qui ont eu l'intelligence de s'adresser à eux, et ensuite parce qu'ils ont entamé tout un travail de réflexion sur le fond de l'affaire. Ils sont arrivés à la conclusion que le développement du transport aérien était insoutenable du point de vue écologique, insoutenable du point de vue de l'avenir de la planète, donc de l'avenir de leurs enfants, et que donc la construction de cet aéroport devait être combattue. Et non seulement ils ont adopté ça, cette position-là, au terme d'un débat interne de fond, un débat de qualité, un débat d'idées, mais en plus ils sont passés aux actes, ils ont été manifestés à la grande manif des 40 000 pour défendre la ZAD, la CGT de Vinci était là. Pas d'autres secteurs de la CGT, malheureusement, mais la CGT de Vinci était là. Donc on a convergence des avant-gardes qui crée une situation de crise politique où vraiment les dominants ne peuvent plus appliquer leur projet comme ils le voudraient. Et dans ces circonstances-là, si on prend les bonnes initiatives et si on tombe sur les bons interlocuteurs, on peut faire bouger les lignes au sein du mouvement ouvrier. Et c'est seulement si on fait bouger les lignes au sein du mouvement ouvrier qu'on pourra gagner la bataille de l'écologie. Parce que je termine en disant ça, il s'agit en fait fondamentalement de changer de mode de production de l'existence. Et on ne va pas changer de mode de production contre la volonté des producteurs et des productrices. On ne le changera qu'avec leur participation active. Donc il faut les gagner au combat. Et c'est tout l'enjeu de cette stratégie.
C'est toujours Zoom Écologie. Vous venez d'écouter Daniel Tanoureau présenter son livre « Trop tard pour être pessimiste ». On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On voudrait remercier beaucoup nos camarades de l'actualité des luttes pour nous avoir prêté cet enregistrement. Vous pouvez les retrouver du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et la musique de tout à l'heure, c'était Flo Ayo, une rappeuse britannique avec le morceau Flo Flo. On vous dit à très bientôt sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.